Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Leguet.
Vaclav Havel est mort le 18 décembre 2011, à 75 ans. Figure majeure de l'Europe centrale, il fut avant tout auteur dramatique. En 1971, compte tenu de ses engagements dans la dissidence, ses pièces furent interdites. En 1977, il est l'un des cofondateurs, avec Yann Patochka et Jiří Hájek, de la Charte 77. Son action le mène en prison à trois reprises, en 1977, en 1979 et en 1989. Et en tout, donc, il aura passé 5 ans en prison. Il est un acteur majeur de la révolution de velours, c'est-à-dire ce moment historique dans la République de l'ancienne Tchécoslovaquie, de la transition donc entre le régime communiste et la démocratie. Et en décembre 1989, il devient président de la République tchèque et slovaque. Et il l'est dans son esprit à titre provisoire, intérimaire, pour quelques mois tout au plus. Et cet intérim, dit-il, va durer 13 ans. 3 ans comme président de la République tchécoslovaque et 10 ans après la sécession entre la République tchèque et la République slovaque, donc de la République tchèque, de 1993 à 2003. Mais n'oublions pas que Vaclav Havel, surnommé donc le président philosophe, a été non seulement un auteur de pièces de théâtre, mais aussi de textes politiques sur la dissidence, sur l'état de la société post-totalitaire, sur le pouvoir. C'est pourquoi nous avons demandé à Chantal Delsol de nous éclairer sur la pensée politique de Vaclav Havel. Chantal Delsol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur de philosophie, professeur surtout de philosophie politique, et vous vous référez souvent à Yann Patochka, dont on a vu effectivement qu'il était ô combien important dans la charte 77. Alors j'ajoute que Vaclav Havel a été nommé donc en 1992 membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques et que vous êtes vous-même membre de la dite Académie. Alors nous allons, pour que effectivement cette émission soit à la fois une meilleure compréhension de la pensée politique de Vaclav Havel, nous allons donc essayer de mieux comprendre avec vous non pas l'action politique ou l'exercice politique de Vaclav Havel président, mais sur sa période antérieure, donc celle de la dissidence, autour d'un livre donc qui s'appelle « Essais politiques », publié chez Kalman Levy en 1989, donc est un ensemble de textes dont les principaux sont, en 1975, « Lettre ouverte à Uzak », donc le secrétaire général du Parti communiste, en 1987, donc « Le sens de la charte 77 », et puis un autre texte de 1978, très important, qui occupe une place de choix dans ce livre, « Le pouvoir des sans-pouvoirs », sans oublier « Histoire et totalitarisme » 1987. Alors, premier thème qui apparaît, c'est celui effectivement de la politique comme morale appliquée. Alors, je voudrais pour commencer vous citer un texte donc de Paul Ricoeur, qui est un article paru dans Le Monde le 15 mars 1977, au moment de la mort de Patochka, où Paul Ricoeur dit, je le cite, « Il est difficile pour des intellectuels occidentaux, encore tout occupés à se déprendre du moralisme et à déconstruire la raison, de comprendre ce recours des intellectuels tchèques à la morale dans le champ même de la revendication politique. » Alors comment est-ce que vous comprenez ce recours constant pour Havel et pour la pensée de ceux qui sont autour de lui, de la politique comme morale, ce besoin de recourir à la morale, alors même que à l'époque, et peut-être encore plus maintenant, la morale semble avoir déserté le champ de la réflexion philosophique chez nous.
Oui, je voudrais juste préciser pour commencer, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, c'est une donnée historique. La République tchèque, ancienne Tchécoslovaquie, est le seul pays d'Europe à avoir connu, dans ce siècle, deux philosophes au pouvoir. Masaryk au début du siècle et Vaclav Havel maintenant. Ce qui est tout à fait particulier et intéressant, Il faut rappeler que la République tchèque ou Tchécoslovaquie, anciennement, est un pays dont les élites tout entières sont des élites intellectuelles depuis que l'élite nobiliaire a été pratiquement entièrement tuée à la bataille de la Montagne Blanche au début du XVIIe. Et c'est peut-être ce qui peut en partie expliquer cela. Donc vous avez des penseurs au pouvoir et Václav Havel est vraiment quelqu'un qui ne démérite ni dans l'action ni dans la pensée. Alors, pour la question que vous posez à propos de, en quelque sorte, l'irruption de la morale dans la politique, parce que c'est quand même ça qui nous étonne un peu, voilà comment, à mon sens, on peut expliquer cela, en dehors du fait que Havel est quelqu'un pour qui la morale importe, mais bon, elle importe pratiquement pour tous les hommes politiques. On n'a pas de raison de dénigrer particulièrement, ni de penser que ce sont des cyniques. Nous avons finalement dans l'histoire deux sortes de révolutions. Les premières révolutions, et nous avons tendance souvent à croire que ce sont les seules, sont des révolutions qui... Une révolution veut toujours revenir à l'état hanté. Mais les premières sont des révolutions qui veulent revenir à un état mythique de la société qui n'a jamais existé. C'est 1793 en France, 1917 en Russie et ses nombreuses sœurs. Donc ce sont des révolutions terroristes et ça nous a été bien décrit, notamment par Burckhardt au 19e ou par d'autres, mais... Burckhardt me paraît significatif. Toute révolution est terroriste. Non. La révolution qui veut revenir à un point mythique des origines est terroriste. Parce qu'elle est utopique. Mais nous voyons arriver un deuxième type de révolution en 1989, qu'on pourrait peut-être d'ailleurs apparenter à la révolution américaine de la fin du 18e, qui est une révolution qui veut revenir à un état hanté réel. C'est-à-dire à une société qui a vraiment existé. Ce qui est complètement différent. Et cette révolution-là, elle n'est jamais terroriste. Et aucune des révolutions du centre-est européen de cette époque-là n'a été terroriste, alors qu'il y en a eu des révolutions. Et il y avait de quoi être terroriste, je vous assure, en Roumanie ou dans des endroits comme ça qui avaient été quand même particulièrement violents. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Ce sont des révolutions morales. Et je pense que Havel s'inscrit dans ce type de révolution morale qui sont des retours à une morale qui a été supprimée, qui a été éradiquée, qui a été... abîmé, finalement. Donc, je pense que c'est comme ça, essentiellement, qu'on peut expliquer.
Donc, ça veut dire qu'on est là dans cette opposition entre deux types de révolutions.
Oui.
Vous avez d'une part, effectivement, Havel, Patochka et d'autres, à ce moment-là, qui sont sous le joug d'un pouvoir issu de cette révolution terroriste.
Oui, exactement.
D'une part. Et deuxièmement, vous avez cette insurrection morale.
Exactement.
Qui est celle de ces intellectuels.
C'est une insurrection morale, puisqu'on lutte contre un pouvoir sans morale. Donc il est normal que ce soit la morale qui ressorte comme un bouchon, forcément.
Avec une morale sans pouvoir.
Avec au départ une morale sans pouvoir, et une morale qui va s'incruster dans le pouvoir, mais qui va être première par rapport au pouvoir. Ça marche pas trop mal, puisque finalement Havel a réussi à gouverner. Je ne serais pas du tout capable de juger sa politique, mais enfin il n'a pas démérité. Donc.
Alors quel est pour Havel le premier devoir moral? Il semble que le premier devoir moral, c'est, dit-il, de dire la vérité comme elle est. Je le cite, « Il suffit de dire la vérité, de formuler à haute voix les opinions, d'exprimer les intérêts et les besoins de la société, de faire face au mal qu'est le mensonge officiel. » Donc on est là bien dans cette opposition entre deux réalités,
c'est ça.
Une fausse apparente et une vraie qui, effectivement, est celle qui émerge à partir du moment seulement où la morale est un souci des individus pour reconnaître cette contradiction d'une fausse morale et d'une vraie morale.
Oui, les dissidents tchèques, qui sont ici bien décrits par Havel, mais qu'on peut retrouver aussi bien chez les Polonais ou chez les Hongrois, et les Polonais et les Hongrois aussi, bien d'autres auteurs qui décrivent cela très très bien, sont des dissidents qui se battent d'abord pour, au fond, pour quelque chose d'anthropologique. Ce sont des dissidents philosophiques avant d'être des dissidents politiques. Parce qu'ils pensent, et je crois que c'est à juste titre, que la question n'est pas véritablement politique au départ, elle est anthropologique, c'est-à-dire que l'homme en tant qu'homme a été écrabouillé, il y a eu des tentatives d'éradication, et finalement c'est d'abord la réalité humaine qu'il faut restaurer. Václav Havel parle dans ce livre, à plusieurs moments, de ce philosophe tchèque qui s'appelle Beloratsky, dont je suis incapable de prononcer le nom correctement. Et Beloratsky a écrit des textes absolument superbes là-dessus, justement sur la question de l'anthropologie. Et notamment, c'est Beloratsky qui dit « Dans la société soviétique, la réalité est un chien blessé qui perd son sang. » C'est-à-dire que voilà, un animal à qui on a envoyé un coup de fusil quelconque, et il est là, il marche dans la solitude, et on voit des traces de son sang. Donc ce sont les traces de la réalité, vous voyez, qui ressurgissent dans un lieu qui est un déni de réalité. Et finalement, la morale ne peut se restaurer que là-dessus, parce que la morale, elle est anthropologique ou n'est pas. Donc il ne peut pas y avoir de soin de l'homme, de soin de l'âme, pour reprendre les textes de Patočka, s'il n'y a pas au départ une anthropologie. C'est pourquoi tous les textes qu'on trouve ici ou ailleurs chez Havel s'inscrivent dans l'accroche de la réalité et donc de la vérité, mais la vérité au sens classique, c'est-à-dire la vérité réalité, la vérité qui dit la réalité, pas évidemment la vérité des contemporains qui est finalement très proche de la réalité soviétique ou autre, celle qu'on trouve dans Orwell, vous savez, quand un groupe de gens dit « si ce cartable est collé au plafond » et si tout le monde le dit, c'est qu'il est collé au plafond. Ça, c'est la vérité totalitaire. Tandis que lui, il est dans la vérité réalité qui est la vérité classique. Donc la recherche de la vérité et la recherche de l'ancrage dans la réalité sont une seule et même chose.
Alors, il y a un élément qui apparaît de façon très forte et qu'on a un peu perdu de vue parce que les temps ont changé. C'est ce qu'il appelle la société post-totalitaire. Donc, on voit à peu près ce qu'est une société totalitaire, c'est-à-dire régie par la terreur. Donc, vous pouvez du jour au lendemain disparaître et plus personne ne s'occupe de vous. Là, il décrit une autre situation où la terreur n'existe plus. Et donc, c'est ce qu'il appelle la société post-totalitaire. C'est-à-dire qu'il dit les gens ont peur, la police est là, mais elle n'exerce pas ce monopole de la violence arbitraire qui était le sien préalablement. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ou comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation politique particulière des gens qui vivent dans une société post-totalitaire, qui sont à la fois sous le joug d'une forme de corruption spirituelle, mais qui en même temps n'ont plus peur pour leur vie, enfin, au sens où effectivement ils pourraient du jour au lendemain disparaître dans la trappe du goulag.
Il énonce ce concept, je pense, pour bien montrer que la question du totalitarisme n'est pas une question politique. Au fond, est très très peu une question politique. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on va se débarrasser du secrétaire général du parti, les choses iront bien, ou de la police politique, de la sécurité si on était en Roumanie ou autre. Non, la question, elle est dans les âmes. Et c'est ça qu'il veut montrer. Il veut montrer que même si le pouvoir n'est plus là, c'est tellement dans les esprits que si on ne se débarrasse pas de cette fausse vision de l'humanité et de la vie, ou de cette vision de la non-vie que nous avons dans l'esprit, eh bien, nous continuerons à vivre comme des larves, même s'il n'y a plus de police politique pour nous y obliger. Alors c'est là que, par une sorte de contrepoids ou de contrefeu, apparaît l'idée véritable qu'il a, comme d'ailleurs tous les gens du centre-est, parce que ça c'est une chose qu'on trouve partout, qu'il a de ce qu'on peut appeler la société civile, ou si vous préférez, de la véritable culture, ou encore on pourrait dire du monde de la vie, mais sur le plan social, parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles le monde de la vie existe, fort heureusement, et on retrouve donc cette société civile dans toutes ces descriptions de la véritable société chez les dissidents du centre-est, où finalement, on peut retrouver ce type de concept aujourd'hui dans les pays anglo-saxons quand ils parlent de « big society ». C'est une société qui prend un poids énorme, qui finalement gouverne, au fond. Bien sûr, il peut y avoir un pouvoir, même un pouvoir qui l'écrase, mais c'est la société quand même qui gouverne, parce que c'est elle qui dit la culture, c'est elle qui transmet la culture, c'est elle qui se bat en permanence pour la culture, et le pouvoir n'est qu'un petit maillon greffé par-dessus, qui, pour peu qu'il soit terroriste, va essayer d'écraser, mais il ne va pas y arriver. À un moment donné, il parle beaucoup de ce qui est par-dessous. Par exemple, on pourrait citer les universités volantes. Enfin, quand on pense que tous ces pays, et surtout la Pologne, ont eu des universités qui se réunissaient dans les caves et qui changeaient de cave tout le temps, où les gens étaient en permanence éduqués, enfin, éduqué, instruit. Donc cette société qui a un poids absolument considérable et qui, je pense, a toujours existé dans ces pays-là, parce que c'est des pays qui ont été opprimés, qui ont vécu un certain nombre de guerres et qui n'ont résisté que comme ça. Parce que finalement, s'ils s'étaient laissés écraser par les différents occupants qui se sont succédés sur leurs terres, ils n'existeraient plus en tant que culture. Donc lui, quand il parle de société et de culture, c'est en quelque chose qui pèse beaucoup plus que chez nous. C'est très très important. Société civile.
Alors il y a deux choses que j'aimerais que vous développiez un peu sur cette société post-totalitaire. C'est d'une part tout ce qu'il dit sur la nécessaire hypocrisie. Donc effectivement, tout le monde est hypocrite, tout le monde raconte un certain nombre de choses ou participe à un certain nombre d'événements, tout en sachant que personne n'y croit vraiment. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il développe, et ça serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, sur l'idéologie. Donc on sait depuis Arendt quel est le rôle de l'idéologie dans les sociétés totalitaires, donc un ciment qui vous tient. Bon, là, il y a un côté désenchanté, si on veut, de l'idéologie telle qu'il le décrit. L'idéologie n'est plus qu'un alibi qui est là pour cautionner ce gigantesque fossé, dit-il, entre les intentions du système et la réalité des dirigeants qui, effectivement, vivent de façon bourgeoise dans un monde qui promeut et qui met en avant la classe ouvrière, l'humanité triomphante, ouais. etc. etc. Voilà. Donc, l'hypocrisie d'une part, qui règne partout, et d'autre part, l'idéologie qui serait peut-être, je ne sais pas, les deux éléments ou deux des éléments les plus significatifs de cette corruption spirituelle de la société post-totalitaire.
Oui, parce que l'hypocrisie correspond à la création, oui, la constitution, on peut dire, d'une prétention de réalité qui a été plaquée sur la réalité elle-même. On a ce qu'on peut appeler le système, enfin, d'une fausse réalité qui a été plaquée sur la vraie réalité, mais il faut obéir à la fausse et pas à la vraie. D'où l'hypocrisie, encore hypocrisie est un faible nom pour dire ce qui se passe. Alors effectivement, il dit que rien que le fait de se mettre au diapason de la vraie réalité, ce serait déjà faire tomber le système, parce que le système ne tient que sur cette hypocrisie et sur ce mensonge. Et effectivement, il donne l'exemple de ce commerçant, je ne sais plus si c'est un marchand de légumes ou autre, qui met dans sa vitrine la banderole du parti ou quelque chose comme ça, parce que de tous les pays, unissez-vous, un truc voilà, comme ça. Alors que lui n'y croit pas une seconde naturellement, mais il sait que s'il le met pas, on va le regarder de travers, il risque d'avoir des problèmes. Bon, à quoi ça sert d'avoir des problèmes alors que finalement ça n'a pas d'importance, autant le mettre. Bon, et finalement, toute la société vit au diapason de ce mensonge plus ou moins débonnaire, mais qui est quand même une sorte de concession à cette fausseté générale, et donc à cette destruction générale de l'âme, plus de l'âme que du corps, au fond. Donc, effectivement, à cette hypocrisie, il faudrait opposer la responsabilité personnelle de l'homme qui dit « Eh bien, je vais écrire que le roi est nu, je vais dire que le roi est nu ». À partir du moment où on dit que le roi est nu, le roi perd sa couronne. Quoi. Il suffirait de le dire, mais le grand geste de courage consiste effectivement à le dire. Mais la notion de responsabilité est très 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 importante ici, parce que nous sommes là devant une philosophie donc spiritualiste qui, au fond, est d'obédience chrétienne. On pourrait dire des choses comme ça, même si Havel n'est pas spécialement... Enfin, je ne pense pas, je ne connais pas sa foi personnelle, je ne sais pas, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais disons que c'est d'obédience chrétienne. Et la responsabilité personnelle, le fait que chacun ait une conscience personnelle qui lui permet de s'opposer à un système, quoi, la conscience d'Antigone, c'est extrêmement important. C'est comme ça que Patočka avait énoncé toute sa théorie très importante de la petite patrie, parce qu'il y avait une grande discussion à propos de qu'est-ce qu'on va devenir, nous autres, Tchécoslovaques, alors que nous sommes si petits, perdus au milieu d'un continent, sans accès à la mer, etc., et si faibles, au milieu de tant de puissance. Nous sommes donc la petite patrie, tout petit pays, ça avait été bien décrit par l'historien Hongrois Bibo aussi. Et Patočka répondait, on peut, quand on est très petit, devenir grand à la mesure de grandes responsabilités. Ça a été d'ailleurs l'un des déchirements de Havel au moment de la rupture entre la Tchéco et la Slovaquie, parce qu'il avait l'impression d'avoir un peu renié ça, même si ce n'était pas de sa faute, puisque ce n'est pas venu de lui, véritablement. Mais... Donc la question de la responsabilité est très importante pour contrer l'hypocrisie, et ça ne peut venir que de la conscience individuelle. Alors, en ce qui concerne l'idéologie, Havel a écrit pas longtemps, finalement, avant la chute du mur, et tous les textes que vous citez sont des textes qui, finalement, sont assez proches dans le temps, peut-être 10 ans avant la chute du mur, et il avait bien lu tous ces textes dissidents à propos du destin de l'idéologie, quand elle est implantée depuis longtemps, de l'idéologie, en tout cas, communiste. Et notamment, il avait lu Gillas, qui est quand même l'un des maîtres en matière de destin social de l'idéologie communiste. Et c'est ainsi qu'il parle de ces idéologues qui sont devenus, au fond, des cyniques. À la limite, les gens n'y croient plus. Au bout d'un moment, ils n'y croient plus, même les chefs eux-mêmes. Alors, ils font semblant d'y croire pendant très longtemps. Mais au fond, tous les nomenclaturistes, comme on dit là-bas, deviennent des oligarques, pour prendre un terme russe. Et ça ressort effectivement dans ces textes. On voit bien. Ils disent, mais nous sommes finalement sous la coupe de gens qui ne croient même plus à ce qu'ils nous imposent.
Oui, c'est ça. Et d'où le rôle. C'est pour ça que enfin, je vais me permettre de vous citer donc page 77, où effectivement l'idéologie maintient l'apparence de quelque chose qui se doit d'être maintenu comme une hypocrisie.
Justification.
Voilà. Alors il dit,
d'un pouvoir.
Donc je lis page 77. Le pouvoir est captif de ses propres mensonges. C'est pourquoi il doit continuer à falsifier le passé. Il falsifie le présent. Il falsifie l'avenir. Il falsifie les données statistiques. Il feint de ne pas avoir un appareil policier tout puissant et capable de tout. Il feint de respecter les droits de l'homme. Il feint de ne persécuter personne. Il feint de ne pas avoir peur. Il feint de ne rien feindre. Voilà. Et il vit donc en permanence dans ce mensonge qui lui permet de se maintenir dans ses avantages particuliers et dans une vie qui finalement, c'est ça qui apparaît dans le texte de Havel, qui finalement est une vie de petit bourgeois préservé derrière le rideau.
On se demande d'ailleurs ce qui se passe dans la tête de ces gens.
Oui,
c'est très... tout à fait impressionnant.
Alors il y a un élément nouveau, de mon point de vue, qui apparaît dans cette société post-totalitaire, et j'aimerais avoir votre réaction là-dessus, c'est une forme de corruption par la consommation, la petite consommation, l'avantage. Il dit, donc Havel, la machine à laver plutôt que l'épanouissement spirituel. Comme s'il y avait un effet de compensation, finalement, dans ce monde de mensonges, qui permet quand même de corrompre les esprits par la petite consommation donnée ou par la consommation permise par ces régimes-là. Nous ne sommes plus dans les rigueurs des temps anciens, des sociétés totalitaires, mais quelque chose est permis, une petite consommation qui compense et qui permet de corrompre les esprits.
Et il faut d'abord voir que dans une société où la spiritualité a été entièrement interdite, et même par des moyens terroristes, on prend ce qui reste, voyez-vous. On prend ce qui reste comme petit bonheur. Je vois pas bien comment les élites communistes ou post-communistes pourraient être spiritualistes, à moins de tout retrouver, ce qui arrive d'ailleurs, ce qui peut arriver bien sûr, et on a de grands exemples. Mais comment elles pourraient être naturellement spiritualistes alors que tout a été éradiqué pendant un certain temps assez long même, bon, encore plus long en Russie. Donc finalement, quand on enlève toute la spiritualité, il ne reste plus que la consommation. Puis il faut aussi dire, et ça c'est difficile à comprendre pour nous, que quand on a été privé de tout pendant si longtemps...
Oui.
On est quand même très heureux, soit de conserver certains avantages, d'autant plus qu'on aime d'autant plus les choses que ce sont des privilèges. Hein. Donc, il est assez logique, finalement, que les élites de ces pays-là, quand ils ont eu perdu la foi, donc ce qui arrive d'après Gillas au milieu des années 60, il est normal que ces élites se soient précipitées sur les datchas, sur la mer Noire ou les choses comme ça.
Enfin, les élites, mais aussi le reste de la population, enfin, est quand même donné quelque chose qui ressemble un tout petit peu à des avantages matériels particuliers. Et donc, ce qui est très intéressant chez Havel, c'est qu'à la fois, il y a cette dénonciation du côté de la République apparemment communiste de cette consommation comme élément corrupteur, et en même temps, une mise en garde qui est faite...
Pour le futur.
Pour le futur et pour les populations de l'autre côté du mur, oui. Parce que nous sommes avant la disparition du mur, pour effectivement mettre en avant cette corruption par la consommation.
Et c'est ça qui est remarquable, c'est que tout en préparant vraiment au péril de sa vie une révolution... Il met en garde contre les perversions, les excès qui pourraient provenir de la libération. En nous regardant, nous, parce que nous, effectivement, nous y sommes en plein. Et donc, il prévient en disant, libérons-nous, mais ne tombons pas dans l'excès. Je ne sais pas si c'est l'excès inverse, parce que ce n'est pas si inverse que ça. Et donc, c'est tout à fait remarquable de lucidité, ça, c'est sûr.
Oui. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle d'un autre thème qui apparaît de façon très forte, c'est celui de la culture. Donc, là aussi, nous sommes dans l'hypocrisie, mais en même temps, Havel est un homme de culture, met bien en avant que la culture, la vraie, disons, est, je le cite, l'antidote de la manipulation sociale et qu'elle permet d'approfondir la liberté et de découvrir la vérité. Et en même temps, dit-il, et il le dénonce, il y a, je le cite, une esthétique de la banalité, un culte de la médiocrité joyeuse et, un peu plus loin, page 81, une dictature de la phrase creuse. Alors comment est-ce que pour Havel, dans ces pays-là, comment est-ce qu'on réussit à tenir les deux bouts de cette culture de la banalité qui est mise en avant, hein, d'une part, et deuxièmement, de cette vraie culture que lui vit, à la fois par son théâtre et à la fois dans sa vie personnelle, qui est seule capable de libérer les individus de cette servitude post-totalitaire dans laquelle ils baignent.
Alors, je crois qu'on peut peut-être comprendre cela ou le décrire en repartant de ce qu'on appelle le personnalisme. On peut dire que Havel fait partie du courant personnalisme, qui est un courant très vaste et à multiples embranchements. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est un courant qui part de la personnalité de l'individu. Et justement, l'individu est davantage qu'un individu, au sens propre du terme, est davantage une personne. Et la personne, à la fois, est un monde en elle-même, une substance, comme l'indique le point de départ de cette philosophie, mais en même temps, la personne est inscrite dans un monde culturel. Et au fond, nous ne sommes pas vraiment dans une société holiste, nous sommes dans une société individualiste, et néanmoins, même dans une société individualiste, la personne est donnée comme ne pouvant pas entièrement se défaire de ce monde dans lequel elle est, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Alors dans l'espace, ses communautés d'appartenance, sa famille, ses groupes d'appartenance, quels qu'ils soient. Et puis dans le temps, c'est-à-dire le passé, c'est-à-dire tout ce qu'elle doit au monde de sa culture. Et puis le futur, tout ce qu'elle doit à ses descendants. Donc la personne est inscrite. Elle est inscrite dans le temps et dans l'espace. Et je crois que ça, c'est essentiel à noter pour le courant personnaliste. Alors c'est ainsi que pour Havel, la personne humaine, les hommes de manière générale, sont inscrits dans une culture. Et qu'est-ce qu'une culture ? Eh bien, c'est une interprétation de l'homme et du monde, du sens de la vie, des fins dernières, etc., de la morale. Bon. mais une interprétation, je dirais, en forme de monde. C'est-à-dire que dans une culture, la culture est une sorte de cosmos, le monde en tant que cosmos, où tout se répond. C'est-à-dire que l'interprétation politique répond à l'interprétation morale, qui elle-même répond à l'interprétation artistique. Et tout ça va ensemble, tout ça est cohérent, si vous voulez. La culture chinoise est cohérente à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que l'homme politique et le dieu en Chine se répondent, et pareil chez nous. Et donc, chaque personne est inscrite dans un monde, dans un cosmos de ce genre. Et c'est pourquoi il est très très important de ne pas désinscrire l'homme de son monde, et on ne peut pas l'obliger à vivre dans un monde entièrement artificiel, et c'est ce que le totalitarisme fait. Je crois qu'on peut l'expliquer comme ça.
Alors, ça c'est la première chose, et puis la deuxième chose, c'est qu'il semble, à le lire, que, pour le dire simplement, le salut vienne de la culture, c'est-à-dire la capacité à pouvoir, pour prendre l'une des expressions, opérer cette prise de conscience spirituelle, hein, qui permet de dénoncer l'hypocrisie, qui permet d'en revenir à la morale, la vraie, à la réalité, la vraie, à quitter la métaphysique, parce qu'il parle à un moment donné de la métaphysique au sens de l'idéologie, la fausse métaphysique, ce qui est au-dessus de la physique et qui permet d'englober, de quitter tout cela au profit donc de la réalité vraie, de la vérité vraie. Cela s'opère, dit-il, si j'ai bien compris, par la culture.
Oui, parce que
culture vraie, enfin,
l'homme qui sort du ventre de sa mère est un hominidé, hein. Mais après, il faut en faire un humanisé. Et pour en faire un humanisé, il faut l'inscrire dans un monde. Alors, s'il est chinois, il va s'inscrire dans un monde chinois, et s'il est français, il va s'inscrire dans un monde européen. La question n'est pas de savoir dans quel monde on s'inscrit, la question est de s'inscrire dans un monde. On pourrait encore parler de la solidarité des ébranlés de Patochka, bon, pour parler de cette communauté culturelle. Et c'est ce que disait Hannah Arendt quand elle parlait de la transmission de l'instruction et de l'éducation. Elle disait, que fait le maître d'école quand il arrive devant ses petits élèves? Eh bien, il tend la main et il leur dit, voici votre monde. Voici votre monde. C'est le monde où il y a eu Vercingétorix. C'est le monde où il y a la France comme hexagone. C'est le monde dans lequel vous êtes destiné à vivre. Et si on ne peut pas inscrire les enfants dans un monde, eh bien, ils sont fichus, ils commencent à dénaturer les choses et les mots, comme on le voit aujourd'hui dans certaines banlieues. Donc c'est extrêmement important. La culture, c'est ça, c'est l'inscription dans ce cosmos qui n'est commun qu'à une partie de l'humanité, puisqu'il y a plusieurs cosmos, mais qui montre la manière dont nous autres, dans cet endroit du monde, eh bien, nous interprétons l'humain.
Alors, je voudrais qu'on termine sur l'idée de la dissidence, parce qu'il y a effectivement, dans les écrits donc, de Havel, toute une réflexion sur les minorités agissantes, sont-elles susceptibles ou pas d'ébranler un pouvoir qui est beaucoup plus fort qu'elle-même. Le pouvoir a le pouvoir, les minorités agissantes, et donc la dissidence n'a comme seul pouvoir que celui de la parole et de la morale. Et pourtant, il mise beaucoup sur cette dissidence. Alors, qu'est-ce que la dissidence? Qu'est-ce que cette dissidence est capable, autour par exemple de la charte 77, de pouvoir ébranler au sein d'un régime qui semble être fort, puissant, et qui, et l'expérience nous l'a montré, peut quasiment du jour au lendemain s'effondrer complètement.
La dissidence est un phénomène extrêmement fort dans ces pays, que nous admirons beaucoup ce phénomène et ces personnes, parce que nous voyons bien que finalement ce sont eux qui ont, d'une certaine manière, qui ont réussi à faire tomber le totalitarisme. Néanmoins, je pense que n'est pas dissident qui veut. Il ne suffit pas de brandir un drapeau pour être dissident. Il y a certaines conditions qui ici ont été mises en œuvre de façon réussie. Les dissidents sont des gens qui tiennent à leur culture et qui sont prêts non seulement à se battre pour elle, mais à mourir pour elle. Dans ce livre, Havel citait une phrase de Patochka qui disait « Une vie qui n'est pas capable de mourir pour le sens de la vie n'a pas elle-même de sens ». C'est bien ce que pensaient les dissidents dans tous ces pays. Et à un moment donné, il critique aussi la fameuse phrase de Cohn-Bendit « Plutôt rouge que mort », ce qui signifie finalement « Rien ne vaut la vie et rien ne vaut qu'on meure ». Ce qui pour Havel est quelque chose d'abominable. Il le dit dans deux ou trois pages dans ce livre-là. Donc des dissidents qui ne seraient pas capables de laisser leur vie pour cela ne seraient plus des dissidents. Il ne suffit pas de brandir un grand drapeau et puis de partir. Vous voyez, c'est spirituel comme combat.
Oui, alors il dit justement autour de la charte 77, enfin je le cite page 48, donc fini le concert de louanges sur les habits d'un roi qui en réalité est nu, et je le cite, la charte donc 77 a été une tentative de la part des humiliés pour redresser la tête, de la part de ceux qu'on avait réduits au silence pour prendre la parole, de la part de ceux qu'on avait dupés pour se révolter contre le mensonge, de la part de ceux qui s'étaient laissés manipuler pour reconquérir leur liberté d'action. Donc il y a bien quelque chose qui est la faiblesse. La faiblesse de ces minorités agissantes, c'est bien l'éthique, c'est bien la révolte spirituelle, c'est bien ce qui est capable, comme on l'a vu, de pouvoir remettre en cause le roi nu qui n'apparaît pas comme roi nu et faire tomber, parce que c'est comme ça que c'est passé quand même, faire tomber comme ça en peu de temps des pouvoirs que l'on croyait être éternels.
Oui, cela dit, ils se sont battus quand même pendant assez longtemps parce qu'il y a toujours eu de la dissidence. Il faut se souvenir, je ne sais pas si vous avez ça en mémoire, il y avait un petit dessin humoriste, enfin qui se voulait humoristique, mais bon, juste après 89, ça se passait en Tchécoslovaquie. On voyait un homme dans une cabine téléphonique qui appelle la police et qui dit « Allô, allô, police, police !» Et le policier dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il répond « On vient de nous voler 40 années de vie. » C'est ça, au fond. Et pendant 40 années, ils se sont battus, parce qu'au fond, la dissidence, c'est un phénomène à long terme. Et on ne peut pas tellement imaginer, nous, tout ce que ça a dû susciter comme moment désespéré, au fond, parce que pendant très longtemps, ça a été sans aucune solution, tout ça. Et les gens se battaient quand même, dans tous ces pays, d'ailleurs, pas seulement là.
Eh bien, Chantal Delsol, merci beaucoup. Donc, je renvoie donc, nos auditeurs à ce très beau livre donc, de Valcavavel, Essai politique, donc, qui est paru avant l'effondrement du mur et avant que Valcavavel devienne président donc, des deux républiques, d'une part. Et deuxièmement, ce qu'on peut dire, me semble-t-il, c'est que ces essais mettent en avant quelque chose qui n'apparaît pas de l'extérieur, à savoir non pas l'oppression des régimes, l'oppression par la police politique ou l'oppression par le pouvoir, mais cette oppression plus insinueuse, plus constante, cette oppression contre la vérité, cette promotion du mensonge, de l'hypocrisie, cette corruption des âmes et des esprits qui finissent par susciter, pour ceux-là même qui sont capables de s'en référer à la culture et au monde, selon ce que vous disiez, des instants de révolte, des mises en garde, des appels à une vraie dissidence. Et ce n'est pas toujours facile à comprendre, nous, aujourd'hui, ou peut-être qu'on peut le comprendre d'une autre manière sur d'autres sujets, mais que cette atteinte fondamentale à la vérité de chacun et à la vérité réelle, à la réalité,
à la réalité de l'homme,
à la vie. Et il y a effectivement pas mal de pages de Havel sur cette opposition entre un principe de mort, le pouvoir, celui qui tient l'idéologie, morte, enfin puissante mais morte, et puis la vie qui est plurielle, polysémique, et qui effectivement suppose que pour être dans la résistance, il faut être, je cite Havel, dans cette vie dans la vérité, par opposition à cette vie dans la mort, qui est seule capable de pouvoir ressusciter en chacun de nous la part la plus authentique de nous-mêmes, qui est celle conforme à son principe spirituel. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup d'être venu jusque chez nous.
Oui.
Et puis, donc, je renvoie tout le monde à ces textes, plus tous ceux qui sont venus après, et en particulier donc un autre texte de Valcavavel dont on n'avait pas parlé, mais qui vient après cette prise de pouvoir. Donc, l'amour et la vérité doivent triompher de la haine et du mensonge, édition de l'Aube, qui a été publiée en 90, mais c'est une autre histoire. Chantal Delsol, merci.
Merci à vous.